Le jour du match de canotage entre Asti et Mullins était arrivé et une foule de curieux se rendait sur les bords de l'Isis. Un gai soleil printanier s'était mis de la partie et les grands ormes répandaient un ombrage bienfaisant sur le chemin creux qui menait à la rivière. De chaque côté de la route, on voyait, disposés sur deux rangs, les vétérans du collège qui regardaient d'un air attendri défiler devant eux les jeunes générations de sportsmen. Professeurs vêtus de noir, sommités intellectuels à la face glabre, jeunes athlètes au visage hâlé, coiffés de chapeaux de paille, les uns en maillot blanc, les autres en tricot rayé, tous pressés vers la rivière bleue qui serpente à travers les prairies d'Oxford. Abercrombie Smith, en vieux connaisseur qu'il était, se plaça à l'endroit où, d'après ses prévisions, l'effort de la course devait se produire. De loin, il entendit le signal du départ, le bruit cadencé de l'arrivée, la confusion des spectateurs qui se poussaient et les cris des rameurs dans les bateaux au-dessous de lui. Une équipe de rameurs haletants et à demi-vêtus passa près de lui à une vive allure. Il aperçut Asti qui les dépassait tous de la tête. Son bateau filait du bon 36 à l'heure, tandis que son adversaire était derrière lui à une bonne longueur. Smith lança un joyeux encouragement à son ami et, tirant sa montre, il allait regagner son logis lorsqu'il se sentit touché à l'épaule. En se retournant, il reconnut le jeune Monkhouse Lee. « Je vous ai aperçu, » dit celui-ci d'une voix timide, comme s'il voulait s'excuser. « Je voudrais vous parler si vous pouvez me consacrer une demi-heure. Ce cottage est à moi. Je le partage avec Harrington Ducking. Venez prendre une tasse de thé. » « Il faut que je sois rentré chez moi dans un instant, » dit Smith. « Je suis dans le coup de feu de mon examen en ce moment, mais je passerai très volontiers chez vous quelques instants. » Si mon ami Hastie n'avait pas pris part à la course, vous ne m'auriez certainement pas vu ici. Hastie est aussi mon ami. Il m'a paru merveilleusement en forme aujourd'hui. Mullins n'est pas à sa hauteur. Mais venez donc chez moi. Mon installation est des plus primitives, mais agréable pour y travailler en été. Le cottage représentait une petite construction blanche, carrée, avec des portes et des fenêtres vertes et une grille rustique, situé à environ 50 mètres de la rivière. À l'intérieur, la pièce principale servait de cabinet de travail, une grande table bureau, des étagères en bois blanc et quelques gravures au mur. Une bouilloire chantait sur une lampe à alcool et les tasses étaient préparées sur un plateau sur la table. « Asseyez-vous et prenez une cigarette, » dit Monkhouse Lee. « Je vais vous verser une tasse de thé. » « Vous êtes bien aimable de me consacrer quelques instants, car je vous sais très occupé. À votre place, je n'hésiterai pas à déménager immédiatement. »« Hein ?» Smith le regarda, ahuri, tenant une allumette allumée dans une main et une cigarette éteinte dans l'autre. « Oui, ma suggestion doit vous paraître d'autant plus extraordinaire que je ne puis vous donner les raisons qui motivent cet avis. J'ai pris l'engagement formel de garder le plus profond secret. » « Toutefois, je me crois autorisé à vous dire que je ne considère pas Bellingham comme un voisin de toute sécurité. En ce qui me concerne, je suis décidé à rester dans cette maison le plus longtemps possible. »« Bellingham ne serait pas un voisin sûr. Que voulez-vous dire par là ?»« Voilà précisément le point que je ne puis vous expliquer. Mais suivez mon conseil, voyez-vous, et changez d'appartement. Nous avons eu une empoigne sérieuse aujourd'hui. » Vous avez dû l'entendre en descendant l'escalier. J'ai, en effet, compris que vous vous querelliez. Cet homme est un ignoble individu, Smith. Je ne vois pas d'autre expression pour le caractériser. J'ai eu des soupçons sur lui depuis le jour de son évanouissement, vous vous rappelez, le soir où vous êtes descendu. Je l'ai poussé dans ses derniers retranchements aujourd'hui et il m'a révélé des choses à me faire dresser les cheveux sur la tête en essayant même de me convaincre. « Je ne suis pas un homme à idées étroites, mais j'appartiens à une famille de clergymen, comme vous le savez, et j'ai des convictions religieuses plutôt arrêtées. Je remercie Dieu de m'avoir éclairé sur la conduite de Bellingham avant qu'il n'ait épousé ma sœur. »« Tout ça, c'est très joli, Lee, » répondit Abercrombie Smith d'un ton agacé, « mais de deux choses l'une, ou vous bavardez en ce moment, ou vous ne parlez pas assez. Je me contente de vous donner un conseil. » Du moment que vous avez une raison suffisante pour me donner un conseil, je ne vois pas en quoi une promesse vous condamne au silence. Si je voyais un malfaiteur placer une cartouche de dynamite quelque part, il n'y aurait pas de puissance au monde qui pût m'empêcher de m'y opposer. Précisément, il m'est impossible de rien empêcher, je ne puis que vous avertir. Sans me dire de quoi vous m'avertissez. Je vous mets en garde contre Bellingham. Mais c'est de l'enfantillage. Pourquoi le craindrais-je plus qu'un autre individu ? Vous m'en demandez trop. Je ne puis que vous engager à changer de maison. Vous êtes en danger là où vous habitez. Je ne prétends pas que Bellingham veuille vous faire du mal, mais cela pourrait arriver, car il est devenu un voisin dangereux. Peut-être suis-je plus au courant que vous ne le pensez, dit Smith en regardant son interlocuteur d'un œil scrutateur. Vous allez être surpris de m'entendre vous dire qu'à ma connaissance, une autre personne partage l'appartement de Bellingham. Monkhouse Lee bondit en proie à une effroyable émotion. Vous savez donc, demanda-t-il tout bas, une femme. Lee se laissa retomber sur sa chaise en grognant. Mes lèvres sont scellées, dit-il, je ne puis rien dire. Eh bien, dit Smith en se levant, je ne me sens pas assez effrayé par des insinuations pour quitter un appartement où je me trouve très bien. Ce serait une trop grande faiblesse d'esprit de ma part de déménager sur votre simple affirmation que Bellingham peut me nuire sans me donner d'autres détails. Je crois que je vais risquer le tout pour le tout et rester où je suis. Je m'aperçois qu'il va être 5 heures et je vous demande la permission de m'en aller. Il prit congé du jeune homme en le remerciant de son aimable accueil et rentra chez lui par cette belle soirée de mai. Comme tout homme qui se sent menacé par un danger vague et mal défini, il éprouvait une certaine satisfaction mêlée d'impatience. Abercrombie Smith s'accordait toujours une distraction, quelque absorbé qu'il pût être par son travail. 2 fois par semaine, très régulièrement, le mardi et le vendredi, il avait pris l'habitude d'aller à pied à Farlingford, à 1,5 lieue d'Oxford, chez son ami, le docteur Plumtrek Peterson. Peterson avait été très lié avec le frère aîné de Smith, et sa situation de garçon fortuné, qui possède une bonne cave et une bibliothèque meilleure encore, faisait de sa maison un but de promenade charmant pour un homme qui désire prendre un exercice hygiénique. Donc, 2 fois par semaine, l'étudiant en médecine se dirigeait de ce côté par des routes ombragées et il passait quelques moments agréables dans la bibliothèque de Peterson, causant de choses plus ou moins banales, passant en revue les potins de l'université et les dernières découvertes médicales ou chirurgicales. Le lendemain de son entretien avec Monkhouse Lee, Smith ferma ses livres à 8h15, heure à laquelle il allait généralement chez son ami. Au moment de fermer la porte, ses yeux tombèrent sur un des livres que lui avait prêté Bellingham et il éprouva un remords de conscience de ne pas les lui avoir rendus. Malgré son antipathie pour ce personnage, il ne voulait pas être grossier à son égard. Il prit donc le livre, descendit et frappa à la porte de son voisin. Il n'obtint pas de réponse, mais en tournant le bouton, il vit qu'elle n'était pas fermée à clé. Assez satisfait d'éviter une rencontre, il entra et déposa le livre sur la table en y joignant sa carte. La lampe était à demi baissée, ce qui n'empêcha pas Smith de voir suffisamment les détails de la pièce. Rien d'ailleurs ne paraissait changé, la frise, les dieux à tête d'animaux, le crocodile pendu au plafond et la table parsemée de paperasses et de feuilles sèches. La caisse de la momie était adossée au mur, mais la momie manquait. Rien n'indiquait qu'une autre personne partageât la chambre de Bellingham, et, en sortant, Smith se reprocha d'avoir calomnié Bellingham. En admettant qu'il ait un secret à dissimuler, il n'aurait certainement pas laissé sa porte ouverte à tout venant. Il faisait noir comme dans un four dans cet escalier en spirale, et Smith descendait lentement à tâtons lorsqu'il crut se sentir frôlé par quelque chose qui passait à côté de lui. Il eut l'impression vague d'un léger bruit, d'un souffle imperceptible qu'il ne put définir. Il s'arrêta et tendit l'oreille, mais le vent qui agitait les feuilles au dehors l'empêcha de rien entendre. « Est-ce vous, Siles ? » cria-t-il. Pas de réponse. Un calme absolu régnait autour de lui. Le bruit qu'il avait entendu provenait sans doute d'une rafale de vent qui s'était engouffrée dans les trous et les fentes des murs de la vieille tour. Il était arrivé sur le carré, cherchant la clé de ce mystère, lorsqu'un homme traversa la pelouse en courant à une vive allure. « Est-ce vous, Smith ?»« Tiens, assis. » »« Pour l'amour du ciel, venez vite. Le jeune Lee s'est noyé. Harrington de King vient d'apporter la nouvelle. Le docteur est absent, vous le remplacerez, mais venez vite. Vous pourrez peut-être le ranimer. »« Avez-vous de l'eau de vie ?»« Non. » J'en apporterai. Il y en a une gourde sur ma table. » Smith remonta 4 à 4, saisit la gourde et redescendait au galop lorsqu'en passant devant la chambre de Bellingham, il fut témoin d'un spectacle qui le glaça d'horreur. La porte qu'il avait fermée derrière lui était ouverte maintenant et, juste en face de lui, il vit la caisse de la momie éclairée par la lampe. 3 minutes avant, cette caisse était vide, il pouvait en mettre sa main au feu. Maintenant, elle encadrait le corps décharné et hideux de cette horrible momie à la figure grimaçante. Le squelette était bien inerte et mort, mais il sembla à Smith, en le regardant, qu'il restait une lueur de vie, une dernière étincelle de volonté dans ses petits yeux brillants au fin fond de leurs orbites. Bouleversé par cette vision, il en avait oublié Hasty, et il restait là, pétrifié, les yeux hagards, lorsque la voix de son ami le rappela à la réalité. « Venez donc, Smith, dépêchez-vous » criait-il. « C'est une question de vie ou de mort, vous savez ?»« Allons vite » ajouta-t-il lorsque l'étudiant en médecine reparut. « Prenons le pas de course. Il y a une bonne lieu. Tâchons d'y arriver en 5 minutes. » Une existence vaut bien la peine qu'on se décarcasse. Ils partirent à une allure vertigineuse à travers l'obscurité et ne s'arrêtèrent haletants et épuisés que lorsqu'ils eurent atteint le petit cottage auprès de la rivière. Le jeune Lee, mouillé, transi, comme un poulet qui sort de l'eau, était étendu sur un canapé. Au milieu de ses cheveux collés, on apercevait encore des herbes de la rivière et une écume blanchâtre s'échappait de ses lèvres contractées à demi-closes. À genoux à côté de lui, son camarade Harrington cherchait à réchauffer ses membres engourdis. « Je crois que tout espoir n'est pas perdu, » dit Smith en posant sa main sur son cœur. « Mettez votre verre de montre devant sa bouche. »« Oui, il respire encore. » Prenez un bras, Hasty, et commencez les tractions comme je le fais. Nous en viendrons bientôt à bout. » Pendant 10 minutes, ils travaillèrent en silence, cherchant à introduire de l'air dans les poumons du noyé. Soudain, un frisson agita son corps, ses lèvres tremblèrent et il ouvrit les yeux. Les 3 étudiants manifestèrent leur joie. « Réveillez-vous, mon vieux, vous nous avez assez effrayés. » « Prenez de l'eau-de-vie, buvez-la au goulot de la gourde. »«
Il va bien maintenant, »
dit son camarade Harrington. « Mon Dieu, quelle frayeur j'ai eue! J'étais en train de lire ici lorsqu'il est parti faire un tour jusqu'à la rivière. Tout à coup, j'entendis un cri et un clapotement d'eau. Je courus et j'arrivai à temps pour le repêcher. Il avait l'air mort. Simpson, avec sa jambe de bois, ne pouvait pas aller chercher le médecin. « Je ne sais pas ce que je serais devenu sans vous, mes amis. »«
Ça va mieux, mon vieux. Assis maintenant. »
Monkhouse Lee se souleva sur ses mains et regarda autour de lui. « Qu'y a-t-il » demanda-t-il. « Ah oui, je me rappelle. J'ai piqué une tête au fond de l'eau. » Ses yeux prirent une expression de terreur et il laissa tomber sa tête dans ses mains. « Comment avez-vous piqué votre tête ?»«
Je ne suis pas tombé. »
« Mais alors ?»« On m'a poussé. J'étais sur le bord quand je me suis senti saisir par derrière et lancer à l'eau comme une plume. Je n'ai rien vu, rien entendu, mais je sais bien à quoi m'en tenir. »«
Et moi aussi, » murmura Smith.
Lee le regarda étonné. « Vous avez donc fait votre expérience ?» demanda-t-il. « Vous vous souvenez du conseil que je vous avais donné ?»«
Oui, et je commence à croire que je le suivrai. »
« Je ne comprends rien à ce que vous racontez, vous autres, » dit Hasty. « Mais à votre place, Harrington, je laisserai Lee se coucher. Nous aurons le temps d'ergoter sur cet incident lorsqu'il se sentira un peu plus fort.
Je crois, Smith, que nous pouvons le laisser tranquille maintenant. Je retourne à pied au collège. Si vous suivez le même chemin, nous causerons en route. » Mais Smith ne se sentait guère d'humeur à causer. Son esprit était trop préoccupé des incidents de la soirée. L'absence de la momie chez son voisin, le pas qu'il avait entendu dans l'escalier, le retour, l'extraordinaire et inexplicable retour de cette horrible momie, puis l'agression de Lee, qui s'expliquait si bien à la suite de l'affront qu'il avait infligé à Bellingham, tout cela se classait dans son esprit avec les mille détails et les circonstances bizarres qui avaient marqué ses premières rencontres avec Bellingham. Ce qui constituait jusque-là un soupçon vague, une conjecture fantastique, prenait subitement le caractère d'une parfaite réalité, d'un fait certain et indéniable. Et cependant, tout cela lui paraissait monstrueux, irraisonnable, au-dessus de tout ce que l'esprit humain peut imaginer. Un juge impartial, ou simplement l'ami qui marchait à côté de lui, aurait pu lui dire tout bonnement que ses yeux l'avaient trompé, que la momie n'était jamais sortie de l'appartement, que le jeune Lee était tombé à l'eau comme tout homme tombe à la rivière, sans aller chercher des explications de midi à 14 heures. Malgré tout, il sentait que Bellingham était un assassin et qu'il avait à son service une arme plus puissante que celle dont s'était jamais servi aucun meurtrier. Hastie était retourné chez lui en faisant d'amères réflexions sur le caractère bourru de son ami. Abercrombie Smith se dirigea vers son coin de tour avec une forte répulsion pour son appartement et son triste voisinage. Il était décidé à redemander conseil à Lee et à déménager le plus tôt possible, car il comprenait qu'un homme ne peut travailler tranquille lorsque son oreille est tendue au moindre bruit de pas partant de l'étage inférieur. Il remarqua, en traversant la pelouse, que la chambre de Bellingham était éclairée. Lorsqu'il passa devant son appartement, la porte s'ouvrit et Bellingham en personne parut sur le palier. Avec sa figure grasse et méchante, il ressemblait à une grosse araignée qui vient de tisser sa toile venimeuse. « Bonsoir, dit-il. Voulez-vous entrer un instant ?»« Non, lui cria Smith d'un ton sec. « Non, vous êtes plus occupé que jamais. Je voulais vous demander des nouvelles de Lee. » Je suis fâché d'apprendre qu'il a été victime d'un accident. » Malgré son air sérieux, il ne pouvait, en parlant, dissimuler un sourire narquois. Smith s'en aperçut et il aurait bien volontiers souffleté. « Vous serez encore plus désolé d'apprendre que Monkhouse Lee va très bien et est hors de danger, » répondit-il. « Vos combinaisons diaboliques ont échoué cette fois. Oh, vous n'avez pas besoin de nier, je sais tout. » Bellingham fit un pas en arrière et ferma la porte à demi comme pour se protéger. « Vous êtes fou! Que voulez-vous dire? Allez-vous affirmer que je suis pour quelque chose dans l'accident de Lee ?»« Oui, gronda Smith, vous et votre sac d'os, vous avez machiné un complot à vous deux. Je vais préciser, monsieur Bellingham, on ne brûle plus aujourd'hui les gens de votre espèce, mais nous avons encore un bourreau. » Et je vous donne ma parole que si un étudiant meurt pendant que vous êtes ici, je vous ferai pendre haut et court. Si vous ne vous balancez pas gentiment à la potence, ce ne sera pas ma faute. Vous vous apercevrez bientôt que vos pratiques égyptiennes, plus écœurantes les unes que les autres, ne sont pas de mise en Angleterre. « Vous êtes fou à lier, » répondit Bellingham. « C'est possible, mais rappelez-vous ce que je vous dis, car vous finirez par voir que je sais tenir mes promesses. » La porte se ferma violemment et Smith monta chez lui très exaspéré. Il se barricada et passa une partie de la nuit à fumer sa vieille pipe et à repasser dans sa tête les événements étranges de la soirée. Le lendemain matin, Abercrombie Smith n'entendit aucun bruit insolite chez son voisin, mais Harrington passa chez lui et lui donna des nouvelles satisfaisantes de Lee. Toute la journée, Smith se plongea dans ses livres et, le soir, il se décida à faire une visite à son ami, le docteur Peterson, qu'il avait négligé la veille. Une bonne course et une causerie amicale détendraient ses nerfs agacés. La porte de Bellingham était fermée lorsqu'il passa, mais, en se retournant, à une certaine distance de la tour, il vit, à la lumière de la lampe, la tête de son voisin appuyée contre la vitre, fixant l'obscurité. C'était un soulagement pour Smith de sortir de cette tour maudite, ne fût-ce que quelques heures, et il marchait allègrement, aspirant dans ses poumons l'air tiède du printemps. Le croissant de la lune qui se levait donnait un reflet d'argent à la tour, dont la silhouette se détachait sur un fond demi-obscur. La brise était légère et quelques nuages clairs se détachaient au ciel. On était situé à l'extrémité de la ville et, en 5 minutes, Smith se trouva en dehors des maisons, entre les haies parfumées de la route qui mène à Oxford. La maison de son ami bordait un chemin ravissant et solitaire. Et malgré l'heure peu avancée, Smith ne rencontra pas une âme sur sa route. Il marchait d'un pas alerte et arriva bientôt à la grille de l'avenue qui menait à Farlingford. Devant lui, il aperçut, à travers le feuillage, une lumière rose qui semblait lui souhaiter la bienvenue. La main sur la serrure de la grille, il se retourna et regarda derrière lui le chemin qu'il avait parcouru. Il lui sembla voir quelqu'un s'approcher rapidement. Silencieusement et furtivement, une silhouette noire rampante, à peine visible au clair de lune, glissa dans l'ombre des haies. Pendant qu'il regardait, le fantôme parut s'approcher à grands pas. Il était maintenant tout près de lui. Malgré la faible lueur, il distingua un cou décharné et deux yeux qui le poursuivront dans ses rêves jusqu'à sa mort. Il se retourna et, en poussant un cri de terreur, il s'enfuit devant lui à toute vitesse. Il arriva enfin à portée des lumières et se crut sauvé. Il passait pour un coureur émérite, mais jamais il n'avait dévoré l'espace comme ce soir-là. La lourde grille s'était refermée derrière lui, mais il entendit se rouvrir sous l'effort d'une nouvelle poussée. Il continua à courir à toutes jambes. Entendant un pas sec derrière lui, il aperçut, en tournant la tête, une horrible créature qui bondissait comme un tigre à sa poursuite, les yeux en feu et un bras en avant prêt à le saisir. Dieu merci, la porte de la maison était entrouverte, la lampe du vestibule l'indiquait. Son adversaire le serrait de si près qu'il sentit son souffle contre son oreille. Il se rua sous la porte en poussant un cri, la referma au verrou et se laissa choir dans un fauteuil de l'antichambre. « Mon Dieu, Smith, qu'avez-vous ? » demanda Peterson, apparaissant à la porte de son bureau. « Donnez-moi de l'eau-de-vie !» Peterson disparut et revint en toute hâte avec un verre et un carafon. « Vous en avez rudement besoin, » dit-il pendant que son ami buvait la rasade qu'il lui avait versée. « Mais vous êtes blanc comme un linge, mon pauvre ami !» Smith posa son verre, se leva et respira longuement. « Cela va mieux, » dit-il. « Jamais je ne m'étais senti aussi bas et aussi faible. » « Mais avec votre permission, Peterson, je coucherai ici ce soir, car je ne me sens pas le courage de refaire la route la nuit. C'est bête, j'en conviens, mais je ne peux dominer ce sentiment. » Peterson regarda son ami très intrigué. « Bien entendu, vous coucherez ici si vous voulez. Je vais dire à Mrs. Burney de vous préparer un lit. Mais où allez-vous ? Venez avec moi à la fenêtre d'où l'on découvre la porte. » « Je veux vous faire voir ce qui m'est arrivé. » Ils montèrent dans le vestibule du premier étage, d'où ils avaient vu sur l'entrée de la maison. L'avenue et les prés environnants paraissaient tranquilles à la lueur blafarde de la lune. « Ma foi, Smith, dit Peterson, il est heureux pour moi que je connaisse votre sobriété, sans cela je... Mais qui diable a pu vous effrayer ainsi ?»« Je vous le raconterai tout à l'heure. » « Tenez, regardez, regardez. Voyez-vous la courbe de la route, là-bas, à hauteur de votre grille ?»« Oui, je vois. Inutile de me pincer le bras. J'ai vu passer quelqu'un, un homme assez maigre, il me semble, grand, très grand. Mais... Et puis après, vous tremblez comme une feuille. »« Il y a de quoi. Je sors des griffes du diable. Si vous voulez redescendre dans votre bibliothèque, je vous raconterai tout. » Ils redescendirent ensemble, à la lueur d'une bonne lampe, un verre de Porto à côté de lui sur une table, il fit à son ami, dans l'ordre chronologique, le récit de tous les événements, petits et grands, qui s'étaient déroulés si extraordinairement depuis la nuit où il avait trouvé Bellingham évanoui en face de la caisse de la momie jusqu'à son horrible et dernier incident. « Voilà, dit-il en terminant, voilà toute l'affaire. Elle est monstrueuse et invraisemblable, mais vraie pourtant. » Le docteur Plumtree Peterson resta silencieux pendant un certain temps, avec une expression de grande indécision sur sa figure. « Je n'ai jamais entendu une histoire pareille, jamais, dit-il au bout d'un moment. Vous m'avez raconté les faits, maintenant dites-moi quelle conclusion vous en tirez. » « Et vous ?» « Mais j'aimerais bien connaître les vôtres. Vous avez eu le temps d'y réfléchir plus que moi. » « Mon Dieu, les détails sont un peu vagues, mais les grandes lignes paraissent très nettes. Cet individu, ce Bellingham, a réussi, par ses études de langues orientales, à découvrir quelques secrets diaboliques qui lui permettent de rappeler à la vie les momies, ou en tout cas une momie particulière. » Il se livrait certainement à cette besogne répugnante le jour de son évanouissement. Sans doute, la vue de cette créature en mouvement aura ébranlé ses nerfs, bien qu'il s'y soit attendu. Vous vous rappelez qu'en sortant de son évanouissement, il se traita lui-même de fou. Eh bien, depuis, il a dû se cuirasser et il assiste maintenant de sang-froid à ses expériences macabres. La vitalité qu'il rend à sa momie n'est probablement que momentanée, car j'ai vu plusieurs fois cette semi-créature parfaitement inanimée dans sa caisse. Il doit connaître quelque procédé savant qui lui permet de produire cette résurrection partielle. Rien ne l'empêche ensuite de se servir de cette créature comme d'un agent dévoué. Elle est intelligente et vigoureuse. Pour une raison quelconque, il a mis Lee dans la confidence, mais, en homme qui se respecte, Lee n'a jamais voulu participer à cette sale besogne. Une discussion violente s'ensuivit, et Lee déclara qu'il préviendrait sa sœur. Le jeu de Bellingham a été de vouloir empêcher Lee de le dénoncer à sa sœur. Il y est presque arrivé en lançant cette créature à ses trousses. Il avait déjà fait une première tentative contre Norton, à qui il en voulait. C'est donc un pur hasard si deux assassinats ne pèsent pas sur sa conscience. Et lorsqu'il m'a entendu l'accuser de ses méfaits, il s'est décidé à se débarrasser de moi à tout prix pour m'empêcher d'ébruiter la chose. Il profita d'une de mes sorties, car il connaissait mes habitudes et savait où j'allais. Je l'ai échappé belle, Peterson. Peu s'en est fallu que vous ne me trouviez étendu raide sur le pas de votre porte. Je ne suis pas nerveux habituellement, mais je n'ai jamais eu peur de la mort comme ce soir. Mon cher, vous prenez la chose trop au tragique, répliqua son camarade. Vos nerfs sont ébranlés par votre surmenage intellectuel et vous exagérez les faits. Comment voulez-vous que des acrobaties pareilles se produisent à Oxford, même la nuit, sans avoir été signalés ? Mais on a déjà jasé à ce sujet. On a fait grand bruit dans la ville d'une aventure de guenons échappés. Il n'est question que de cela à Oxford. Il n'y a pas à dire, c'est un enchaînement d'incidents bien extraordinaires. Et cependant, mon cher, vous admettrez que chaque fête prise séparément peut s'expliquer d'une manière plausible. Quoi ? Même mon aventure de ce soir ? Certainement. Vous sortez de chez vous avec des nerfs en très mauvais état et la tête farcie d'idées étranges. Quelque vagabond affamé vous suit et voyant que vous courez, il vous poursuit de plus belle. Vos craintes et votre imagination font le reste. Ce n'est pas ça, Peterson, ce n'est pas ça. Et quant au fait d'avoir trouvé la caisse de la momie vide un jour et puis le lendemain garnie de son habitant, c'est un effet de lumière. Vous dites vous-même que la lampe était à moitié baissée. Comme, d'autre part, vous n'aviez aucune raison spéciale de vous approcher pour voir de près, il se peut parfaitement que la momie ait été dans sa caisse sans que vous l'ayez vue la première fois. Ah non, par exemple, je proteste. Pour les autres incidents, il peut se faire que Lee soit tombé à l'eau tout seul et que Norton ait été attaqué. Il existe certainement des indices terribles contre Bellingham, mais si vous les exposiez devant un magistrat, il vous rirait au nez tout simplement. Je le sais, aussi ai-je pris le parti de ne confier à personne le soin de cette affaire. Et alors ? Eh bien, je sens qu'il me reste un devoir à remplir envers la société, et d'ailleurs, il faut bien que je songe à ma propre sécurité. Sans ça, cette bête horrible m'obligerait à quitter l'université. Je serais vraiment impardonnable de me laisser faire. Je suis décidé à agir par moi-même. À ce propos, puis-je me servir de votre papier et de votre plume ?
Certainement, vous trouverez tout cela sur cette table. »
Abercrombie s'assit devant un cahier de papier écolier et, pendant 2 heures ininterrompues, il laissa courir sa main. Les pages se noircissaient rapidement, tandis que son hôte, confortablement assis dans un fauteuil, le regardait avec une curiosité patiente. Enfin, Smith poussa une exclamation de satisfaction, sauta sur ses pieds, réunit ses feuilles éparses et posa la dernière sur le bureau de Peterson. «
Voulez-vous me donner votre signature comme témoignage ?»«
Témoignage ? De quoi ?»«
De ma signature et de la date. La date est la chose la plus importante. Voyez-vous, Peterson, ma vie en dépend peut-être. »
« Mon cher Smith, vous parlez comme un fou. Je vous en prie, allez vous coucher. »«
Pas du tout. Je ne me suis jamais aussi bien possédé. Et je vous promets d'aller me coucher dès que vous aurez signé. »«
Mais que me présentez-vous là ?»«
Le récit de tout ce que je vous ai raconté aujourd'hui. Je désire que vous le signiez. »
« Certainement, » dit Peterson en mettant sa signature au bas de celle de son ami.
« Là, mais je ne vois pas où vous voulez en venir. »
« Vous garderez ce dossier, n'est-ce pas, et vous le produirez au cas où l'on m'arrêterait. »«
Arrêté ? Pourquoi donc ?»«
Pour assassinat. C'est très possible et je m'attends à toute espèce d'événement. Je n'ai qu'un moyen de procéder et je suis parfaitement décidé à l'employer. »
Pour l'amour du ciel, n'agissez pas à la légère.
Croyez-moi, il serait bien plus risqué d'employer un autre moyen. J'espère que je n'aurai pas recours à votre témoignage, mais je me sentirai plus tranquille en l'idée qu'en cas de besoin, vous pourriez justifier ma conduite. Et maintenant, je suis prêt à suivre votre conseil et à aller me reposer, car il me faudra être frais et dispos demain matin. »
Abercrombie Smith était en somme un ennemi assez redoutable. Relativement calme et d'un caractère paisible, il devenait très violent quand on l'exaspérait. Dans toutes les circonstances de la vie, il apportait la même énergie et la même décision qu'il avait toujours distingué de ses camarades d'études. Il avait renoncé à ses livres pour 24 heures, mais il entendait bien que cette journée ne demeura pas perdue pour lui. Il ne souffla mot de ses projets à son ami, mais à 9 heures, il reprenait le chemin d'Oxford. Il s'arrêta dans la rue principale chez un armurier et acheta un gros revolver avec une boîte de cartouches à percussion centrale. Il en glissa 6 dans le barillet et mit le revolver chargé et à demi-armé dans la poche de son veston. Il alla d'abord chez Hasty et trouva son ami en train de déjeuner et de lire le Sporting Times.
« Eh bien, quoi de neuf » demanda-t-il. « Voulez-vous du café ?»«
Non, merci. Hasty, je veux que vous veniez avec moi et que vous fassiez ce que je vous demanderai. »«
Parfaitement, mon cher. Apportez un gros gourdin, s'il vous plaît. »«
Ah ?»
Hasty le regarda étonné. « Voilà une canne de chasse capable d'assommer un taureau. »«
Encore autre chose. Vous avez une trousse de chirurgie. » « Donnez-moi le couteau le plus long que vous possédiez. »«
À votre service, vous m'avez l'air de partir en guerre. Que voulez-vous de plus ?»«
Bien, cela me suffit. »
Smith enfouit le couteau dans sa poche intérieure et se dirigea vers le carré de la tour.
« Nous ne sommes des poules mouillées ni l'un ni l'autre, Hasty, dit-il. Je crois que je me tirerai d'affaire tout seul, mais je vous emmène par précaution. » Je vais m'offrir une petite explication avec Bellingham. Si je n'ai affaire qu'à lui, je n'aurai bien entendu pas besoin de vous. Si je crie, montez et cognez dessus de toutes vos forces. Comprenez-vous ?
Entendu, je viendrai si je vous entends appeler.
Alors, restez ici, ce sera l'affaire d'un moment. Ne bougez pas avant que je descende.
Je vous attends de pied ferme.
Smith monta l'escalier, ouvrit la porte de Bellingham et entra. Bellingham était assis à sa table et écrivait. À côté de lui, au milieu du fouillis de ses bibelots étranges, Smith aperçut la caisse avec son numéro de vente 249 collé sur un des côtés. L'ignoble momie se dressait, hideuse et grimaçante. Smith regarda tout autour de lui avec un calme parfait, ferma la porte à clé, mit la clé dans sa poche
et, traversant la pièce, il se dirigea vers la cheminée pour allumer le feu. Bellingham resta assis bouche bée, stupéfait et la rage dans l'âme. « Vraiment, vous ne vous gênez plus. Faites comme chez vous, » marmotta-t-il. Smith, assis sans broncher, posa sa montre sur la table, tira son revolver, l'arma et le garda sur ses genoux. Puis il tira de sa poche son grand couteau et le jeta devant Bellingham. « Allons, à l'ouvrage, » lui dit-il, « découpez-moi cette momie. »«
Tiens, vraiment ?» répondit-il sur un ton ironique.
« Oui, c'est comme cela. On me dit que la loi ne peut vous atteindre, mais j'ai ma loi à moi qui saura tout arranger. Si dans 5 minutes vous n'avez pas commencé, je vous jure, au nom du Dieu qui m'a créé, que je vous logerai une balle dans la tête.
Vous voulez me tuer ?»
Se disant, Bellingham se leva à moitié et sa figure devint jaune comme du mastic.
« Oui.
Et pourquoi ? Pour mettre fin à vos méfaits. Voilà déjà 1 minute de passé. »
« Mais qu'ai-je donc fait ?
Vous le savez comme moi.
Ma parole, vous cherchez à m'intimider.
2 minutes sont passées.
Mais expliquez-vous donc, vous êtes un fou dangereux. Pourquoi détruirais-je mon bien ? Cette momie a une grande valeur.
Vous allez la découper et la brûler.
Non, certes.
Voilà déjà 4 minutes. »
Smith prit le revolver et regarda Bellingham avec une expression impitoyable. Comme l'aiguille de sa montre avançait, il leva la main et mit le doigt sur la détente.
« Là, là, je vais vous obéir !» cria Bellingham.
En proie à une agitation folle, il saisit le couteau et se mit à déchiqueter la figure de la momie sans détacher son regard de larmes de son terrible visiteur qui suivait tous ses mouvements. L'horrible créature se désagrégea en grinçant à chaque entaille du couteau, laissant une traînée de poussière épaisse et jaune. Des épices et des essences aromatiques se répandirent sur le parquet. Tout d'un coup, avec un craquement sinistre, la colonne vertébrale se brisa et tomba. Il ne resta au milieu de la pièce qu'un monceau de membres épars.
« Maintenant, au feu !» cria Smith.
La flamme dévora en pétillant ses débris jaunes et desséchés empilés dans la cheminée. La petite pièce tout enfumée ressemblait à la chambre de chauffe d'un vapeur et des gouttes de sueur perlaient aux tempes des deux hommes. L'un travaillait sans relâche tandis que l'autre le surveillait d'un air impassible et résolu. Une fumée épaisse et grasse sortit de la cheminée et une odeur âcre de résine brûlée et de cheveux roussis empesta la chambre. Un quart d'heure après, il ne restait du lot numéro 249 qu'un petit tas de brindilles et de cendres.
« Vous êtes satisfait, je pense !» hurla Bellingham en lançant à son bourreau un regard de haine et d'angoisse.
« Non, il faut faire table rase de tout ce bazar excentrique. Nous ne voulons plus de machinations diaboliques. Au feu, toutes les feuilles. Elles pourraient, elles aussi, vous servir à votre triste besogne. »
« Et quoi encore ?» demanda Bellingham lorsque les dernières feuilles eurent disparu dans les flammes.
« C'est maintenant le tour du rouleau de papyrus que vous étaliez sur la table l'autre nuit. Il est dans ce tiroir, il me semble. »«
Non, non !» cria Bellingham. « Ne le brûlez pas. Vous ne savez pas ce que vous faites, profane. C'est un objet unique. C'est la clé de la sagesse et de la science qu'on ne peut trouver ailleurs. »«
Au feu, sans réplique, vous dis-je. »
« Mais voyons, Smith, c'est insensé de me tyranniser ainsi. Je vous ferai partager ma science, vous saurez tout, je vous le promets. Permettez-moi au moins de copier ce papyrus avant de le brûler. »
Smith fit un pas en avant et ouvrit le tiroir fermé à clé. Prenant le papier jaune, il le jeta au feu et l'enfonça avec son talon dans la flamme. Bellingham hurla et se jeta sur lui, mais Smith le repoussa et maintint le rouleau jusqu'à sa complète ignition.
« Eh bien, monsieur Bellingham, il me semble que je vous ai maté. Si vous recommencez vos vieilles pratiques, vous aurez de mes nouvelles, je vous en réponds. À présent, bonsoir, je retourne à mes études. »
Tel est le récit d'Abercrombie Smith sur les événements étranges qui se déroulèrent au vieux collège d'Oxford en 1884. À la suite de cet incident, Bellingham quitta le collège immédiatement. On apprit ensuite qu'il était parti pour le Soudan. Personne ne peut donc contester la véracité de ce récit.
Il n'en reste pas moins vrai que la science humaine se montre souvent bien bornée et que les voies de la nature sont des sentiers terriblement obscurs, au milieu desquels l'investigateur le plus habile peut parfois s'égarer lui-même.